Le 13 mai dernier avait lieu le Salon du Livre Jeunesse à l'Institution Saint-Odile à Lambersart. Une quatrième édition rythmée notamment par une émission enregistrée en direct de l'événement et entièrement animée par des élèves de quatrième. Ce salon était en partenariat avec RPL et nous vous proposons tout de suite d'écouter cette émission spéciale.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. Not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how.
Bienvenue sur RPL,
dans notre émission spéciale en direct du Salon du Livre Jeunesse de Saint-Odile. Faisons les présentations. Nous sommes Antoine
et Benoît, élèves en 4e C ici à Saint-Aud.
Mais vous vous en doutez, nous ne sommes pas seuls.
On est accompagné de toute notre équipe de rédacteurs que vous découvrirez au fur et à mesure qu'avance l'émission.
Alors, depuis le début de l'année scolaire, on apprend le métier de journaliste radio. Et on prépare cet événement tant attendu depuis maintenant un trimestre. Pour pouvoir vous proposer une heure d'émission aujourd'hui.
Et au programme justement des interviews, des rencontres, des portraits, beaucoup de découvertes qui, on l'espère, vous donneront envie, chers auditeurs.
Et celui qui ouvre le bal, c'est Ilias. Et toi, eh bien, tu nous présentes le Salon du Livre, cet événement. Qu'est-ce que c'est ?
Bonjour, le Salon du Livre est né en 2014. Il rassemble des auteurs et des illustrateurs pour faire découvrir la lecture aux enfants. C'est aussi un lieu de rencontre entre les lecteurs et les auteurs. Ce salon permet également à certains élèves de se confronter au milieu littéraire avec l'écriture d'un livre qui est ensuite publié. Le Salon du Livre possède une section où les auteurs dédicacent leurs œuvres, une pièce où sont exposées les histoires, les dessins des élèves de primaire tout autour de la littérature. Au centre, il y a la boutique Autant lire et pour finir, une section avec des boutiques d'artisanat.
Alors je crois que pour en savoir un peu plus, tu es allé à la rencontre de Natacha Lefebvre.
Et oui, c'est notre documentaliste à Saint-Odile et tous les ans, depuis maintenant 4 ans, elle organise ce Salon du Livre Jeunesse. On l'écoute.
Alors le Salon du Livre de Saint-Odile en est à sa 4e édition. Et comme les années précédentes, toute notre institution s'est mobilisée pour accueillir les auteurs, illustrateurs et éditeurs dans les meilleures conditions possibles. Et on est encore heureux de pouvoir offrir gratuitement cet événement à toutes les personnes qui voudront bien venir nous rendre visite ce jour-là.
Comment avez-vous travaillé ?
Un salon, ça met à peu près une année. Hein. Donc le salon de l'année dernière étant terminé, on a commencé à travailler sur celui de cette année. Cette année, on a eu la chance d'avoir une jeune étudiante en service civique. Donc elle faisait des études et elle fait toujours des études dans le monde de l'édition. Donc elle était très intéressée par notre projet parce que ça lui permettait de pouvoir pratiquer, mettre en pratique ce qu'elle avait appris depuis plusieurs années et que ça lui permet aussi l'année prochaine de continuer ses études. Donc, on commence par recontacter les auteurs qui ont déjà travaillé avec nous. On voit les enseignants, on leur soumet des projets, on écoute leurs demandes et puis à partir de tout ça, on essaye de créer une petite alchimie pour que tous les niveaux de notre institution, de la maternelle au lycée, puissent participer d'une manière ou d'une autre à notre salon. Parce que le but, c'est vraiment de former nos jeunes à avoir l'envie d'aller vers la littérature jeunesse.
D'où vous vient cette passion ?
Ah, c'est toute une histoire. J'ai toujours aimé les livres. J'ai eu la chance de toujours avoir eu beaucoup de livres autour de moi depuis ma plus tendre enfance. J'ai eu une maman enseignante qui était passionnée par la lecture. Je l'ai vue faire tout son possible pour que tout le monde puisse être un lecteur heureux. Et quelque part, elle a semé des graines que je continue à faire fleurir.
À qui s'adresse ce salon ?
Le public visé, effectivement, c'est jeunesse, mais il s'adresse à tout le monde. J'oserais dire qu'à l'heure actuelle, la littérature jeunesse, elle est foisonnante, elle aborde plein de sujets. Et si elle peut être une pause pour les petits, les ados, les adultes, c'est pour ça qu'on crée ce genre d'événement.
Y a-t-il déjà des projets pour l'année prochaine ?
Alors, il y a des projets parce qu'on a l'envie de continuer. On a l'envie de continuer des projets qui ont bien marché. Il y a eu cette année, tous les ans, on remet un petit peu les billes en jeu et puis on essaye, on teste. Et quand on voit que ça a bien fonctionné, eh bien on se dit l'année prochaine, on va pouvoir l'améliorer. Donc oui, effectivement, il y a déjà des projets en route pour l'année prochaine.
Merci de m'avoir suivi et je laisse la parole à Antoine et Benoît.
Eh bien, merci à Natacha Lefebvre et merci Ilias de nous avoir éclairé sur ce sujet.
On parle maintenant de deux auteurs, deux femmes qui étaient là à l'origine du Salon du Livre, qui le connaissent bien, qui se sont d'ailleurs rencontrées ici.
Il s'agit de Nancy Gilbert et Sylvie Bossier. Et je laisse la parole à Milo et Julien qui vont mener cette interview. Bonjour à tous.
Bonjour et oui, Antoine, tu l'as dit, ces deux auteurs se sont rencontrés ici, au Salon du Livre. Et aujourd'hui, elles ont réalisé un livre ensemble. Sylvie Bossier, Nancy Gilbert, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et ce livre s'appelle « Ma liberté, tout en couleurs ». Il est sorti en novembre dernier.
Est-ce que vous pouvez nous en reparler ?
Alors, c'est l'histoire d'une petite esclave avant la guerre de sécession aux États-Unis qui travaille dans les champs de coton, donc un travail difficile, et qui rencontre quelqu'un qui lui fait peur.
Vous vous êtes connue ici au Salon du Livre, c'est bien ça ?
Oui.
Mais cette idée, comment vous est-elle venue ?
Donc en fait, quand j'ai rencontré Sylvie au salon et que je suis allée voir ce qu'elle avait écrit, j'ai tout de suite accroché avec son écriture. Et du coup, je lui ai proposé qu'on écrive ce petit roman ensemble. Et au départ, j'avais le personnage de la petite esclave dans ma tête. Et on a cherché toutes les deux pour trouver le deuxième personnage qu'elle allait écrire. Donc le deuxième personnage est un peintre qui est arrivé là dans cette plantation pour faire le portrait de,
du maître de maison et qui, en fait, va être fasciné par le travail dans les champs, ce qui n'était pas prévu au départ.
Et pourquoi des enfants esclaves ?
Alors, en fait, on voulait que le personnage puisse aussi toucher le lectorat pour lequel on écrivait, c'est-à-dire les enfants autour de entre 9 et 12 ans. Du coup, la petite esclave a 12 ans.
Quels sont les avantages de travailler en commun ?
L'écriture, c'est un travail solitaire en général. Donc du coup, travailler à deux, ça veut dire échanger sur notre écriture et du coup avancer grâce au regard de l'autre. Et là, en l'occurrence, comme il y a deux voix, c'est un travail de tricotage entre les deux voix pour que les scènes qui se passent au même moment, enfin que les scènes que partagent les deux personnages soient vues de deux façons différentes. Donc c'est vraiment un travail tout en dentelle, phrase par phrase, quoi.
Oui, et puis du coup, avec mon écriture, j'incarnais la petite esclave à 100%, et Sylvie, avec son écriture, parce qu'on a chacun nos particularités, incarnait bien aussi son personnage. Donc on différencie bien chacune des personnalités.
Pourquoi avoir choisi d'écrire pour les enfants ?
Je pense que pour moi, c'était un peu une évidence. Vous êtes des gens à qui on peut offrir tellement, dans tellement de registres. Et puis, il y a tellement de richesses, tellement de possibilités dans la littérature jeunesse, à la fois en termes de présentation, d'écriture. Voilà. Puis, je crois aussi que moi, j'écris un peu pour l'ado que j'ai été et qui avait peu de livres. Donc, voilà, je me venge.
Oui, et puis pour moi, je trouve qu'un bon livre, entre guillemets, pour enfants, peut aussi s'adresser aux adultes et les toucher également dans l'enfant qu'ils ont été, par rapport aux enfants qu'ils ont aussi, avec qui ils travaillent.
Et quels sont les retours que vous avez eus sur ce livre ?
Ben, des retours sympathiques de chroniqueuses qui ont bien apprécié la complémentarité de nos deux écritures. Le thème choisi, le rôle aussi de la transmission, puisque à travers le petit roman, on découvre la vie de ces esclaves. Assez positif.
Mais en fait, les retours sont parfois assez lents. Souvent, un ou deux ans après la parution, on a encore des... Donc en fait, la vie d'un livre, elle se fait assez lentement. Il est encore assez récent et on a... Voilà, ouais. On espère qu'il a encore de beaux jours devant lui.
Et comptez-vous encore écrire des livres ensemble ?
Moi, j'aimerais bien, oui.
Ouais, moi aussi.
Très bien.
Déclaration en direct.
Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
À bientôt.
Merci Sylvie Bossier et Nancy Guibert d'avoir été avec nous. Et merci Milo et Julien pour cette découverte. On se retrouve tout à l'heure.
Et on passe tout de suite à un tout autre style avec Coralie Sodo, qui est auteure et illustratrice de livres pour les tout-petits. Et c'est Elena Lilou qui nous la présente.
Oui, bonjour à tous. Petit Lion a une crinière ébouriffée, comme celle de son papa. Mais on se moque de lui car elle change de couleur. Les hippopotames rient, les crocodiles s'étonnent, les perroquets crient en le voyant. Et quand son père lui propose de l'accompagner pour chasser, même les zèbres n'ont pas peur de lui. Voilà un extrait du livre Caméléon de Coralie Sodo pour les tout-petits à partir d'un an.
Mais au fait, qui est Caroline Sodo ?
C'est une Lilloise née en 1981. Elle aime les univers enfantins, naïfs et colorés. Elle s'y sent bien. Dès le lycée, elle commence à gribouiller dans ses cahiers, puis chez elle, elle peint. Le bac en poche, elle se lance dans des études de mathématiques et d'informatique. Rapidement, elle se lasse des maths et a plutôt envie d'associer art et numérique. Coralie Sodo commence alors des études en conception multimédia, puis devient web designer. Mais en 2008, elle sent qu'elle ne s'épanouit pas assez dans son travail. Elle se tourne alors tout naturellement vers l'illustration jeunesse. Son premier album a été écrit par Nicole Schnitzelar, qui s'appelle « Bé Mouton ». Puis, tout de suite, naturellement, elle découvre en 2009 le plaisir d'écrire et met dans ses textes autant de couleurs et d'humour que dans ses images.
Mais alors, quel est le premier livre qu'elle a écrit ?
Un cadeau pour papa, sorti en 2009 et illustré par Raphaël Michaud. D'ailleurs, voici ce qu'il raconte. « Maman n'aime pas les fleurs. Papa, oui. Il aime leurs couleurs et leurs parfums, mais n'ose ni en offrir ni s'en acheter. Alors, Ses enfants apprennent à les cultiver. Elle lui offre un beau bouquet. Et depuis, maman offre des fleurs à papa.
Merci de nous avoir écoutés pour ce portrait.
Merci. Et pour retrouver Coraline Sodo, rendez-vous sur le www.coralisodo.com.
Un peu de musique. Tout de suite, on écoute Faded avec Alan Walker, juste avant de se retrouver pour toujours plus de découvertes sur RPL.
Et nous sommes toujours en direct du Salon du Livre Jeunesse, à l'Institut Saint-Odile à Lambersart. Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette émission spéciale où on découvre des auteurs, des illustrateurs, des éditeurs.
Et tout de suite, vous allez entendre quelques témoignages de visiteurs qui sont devenus aujourd'hui au Salon, interviewés par nos deux journalistes, les Dupont, les Maxime, pardon.
Bonjour, nous sommes en compagnie de Evelyne et Madame Sobiez.
Pourquoi êtes-vous ici ?
Je vais commencer. Donc, moi, je suis maman de deux enfants qui sont à l'école et on vient chaque année puisque on aime beaucoup ce salon qui est très adapté à l'âge de nos enfants. Et on y achète chaque année des livres. Et puis maintenant, comme on est habitué, on retrouve des auteurs chaque année comme Marie Collot, Vinoc, etc. Donc, on a plaisir à racheter les nouveautés de ces auteurs qu'on aime bien.
Moi, je suis ici pour encourager mes élèves qui sont en train de faire du super boulot de journalisme, voilà, journalisme de presse et journalisme radio, et aussi d'autres élèves qui font un spectacle de mise en musique d'un roman qu'ils ont écrit.
Comment avez-vous su qu'il y avait un salon du livre à Saint-Odile ?
Alors, je l'ai su par les prospectus de l'école, mais j'ai aussi, je suis aussi abonnée à la page Facebook, puisque maintenant j'ai vu qu'il en existait une, donc c'est sympa. On a vu aussi les travaux préparatifs dans les classes de nos enfants. Donc voilà, donc j'ai su ça par ces deux biais-là.
Moi, c'est tout simplement parce que j'ai participé au début de la création du salon. Et voilà, donc je savais très bien que cet événement existait le 13 mai.
D'accord. Et que comptez-vous faire sur ce salon ?
Alors, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on est retourné voir les auteurs qu'on connaissait. Puis on va aussi essayer de découvrir d'autres qu'on connaît moins. Et puis, voilà, essayer de découvrir, d'acheter une ou deux nouveautés pour voir si ça va nous plaire.
Acheter des livres, ça c'est quand même la base du Salon du Livre. Et puis, voir aussi un peu tout ce qui se fait autour de cet événement.
Et pour finir, quel genre de livres aimez-vous lire ?
À titre personnel, surtout des romans, en fait. Voilà. Donc, et mes enfants, bah, c'est un peu pareil. Grand fan d'Harry Potter, mais aussi de tout un tas de romans différents.
Pareil, moi j'aime beaucoup lire les romans et là je pense que je vais aussi essayer d'acheter des livres pour enfants aussi.
Merci de nous avoir laissé le temps de vous interviewer.
Merci, bonne journée.
Au revoir.
En tout cas, ça donne envie, merci. Et alors une petite question, connaissez-vous le steampunk ?
Pas du tout. J'ai compris que c'était le futur dans le passé du futur du passé. Voilà, j'ai rien compris en gros quoi.
Eh bien, ne bougez pas, on découvre ce style littéraire tout de suite avec Maëlle et Clara.
Bonjour, nous sommes en compagnie d'Arthur Morgan, co-créateur de la plus ancienne.
D'abord, question simple, et pour expliquer à nos auditeurs, qu'est-ce que c'est le steampunk ?
Bonjour, le steampunk c'est un mouvement qui est né dans les années 80 aux États-Unis. D'abord un mouvement littéraire qui vise à relire la littérature et surtout le 19e siècle avec une technologie beaucoup plus avancée. Il y a des robots qui marchent à la vapeur, des ordinateurs qui marchent à la vapeur.
Et combien de livres avez-vous écrit ?
Moi j'en ai écrit deux, un guide qui décrit le mouvement steampunk et un roman qui se passe dans une France avec une France qui n'a jamais existé, en 1871.
Parlez-nous de ces livres, qu'est-ce qu'ils racontent ?
Alors le guide steampunk, c'est un guide de découverte du mouvement steampunk par la littérature, par les jeux vidéo, par les comics, par les mangas. Et le deuxième ouvrage est un roman qui parle de deux espions français qui sont envoyés en France, de deux espions anglais, pardon, qui sont envoyés en France en 1871. Et à cette époque-là, à Paris, il y a une révolution qui s'appelle la Commune, et les deux espions anglais qui doivent aller chercher un scientifique se retrouvent perdus au milieu de cette révolution et sont un peu ballottés un peu partout en France.
Quel est le livre qui a le plus plu ?
Le guide de steampunk, donc le premier, simplement parce que c'est le seul qui parle de ça en France et également parce que c'est un mouvement qui commence à prendre de l'ampleur et les gens ont envie de découvrir ce qu'est steampunk.
Et que dit votre entourage sur ce style littéraire ?
Ma femme se moque beaucoup de moi avec mes costumes, mais ce qui est intéressant en fait, c'est que tout le monde arrive à s'y raccrocher d'une certaine façon, parce que ça parle de Jules Verne, ça parle de Sherlock Holmes, Conan Doyle, donc de Dracula, de Frankenstein, donc toutes les grandes figures de la littérature du 19e siècle sont elles aussi rejouées dans le steampunk.
Quel public visez-vous ?
Un peu tout le monde en fait, parce que j'ai la conviction que tout le monde a déjà vu le steampunk au moins une fois dans sa vie. Quand on va à Disneyland Paris et qu'on voit Space Mountain par exemple, ben voilà, Space Mountain c'est du steampunk, on a l'esthétique du 19e siècle avec le voyage dans la Lune, donc tout le monde a déjà croisé à un moment donné dans sa vie le steampunk et donc c'est assez facile maintenant de s'y rattacher.
Avez-vous de nouveaux projets de livres ?
Oui, je suis en train d'écrire un guide touristique de Paris. 19e siècle, le scientifique et aussi un petit peu steampunk, qui va aussi parler des grands lieux, de la littérature steampunk. Donc, vous pourrez aller sur place et découvrir toutes les histoires qu'il y a autour de la Tour Eiffel, notamment.
Que souhaitez-vous transmettre via le steampunk?
Principalement, l'amour de la littérature du 19e siècle, relire Jules Verne, relire Sherlock Holmes, montrer que c'est pas de la littérature que pour les enfants. Et c'est aussi une façon pour moi de redécouvrir l'histoire du 19e siècle qui n'est pas vraiment très très connue, notamment l'épopée napoléonienne et tout le 19e siècle en France.
Et c'est un style qui se développe?
Ça se développe beaucoup, surtout aux alentours de Noël, où on voit dans certains grands magasins des machines fantastiques. J'ai vu ça en Allemagne cet hiver. Certains grands magasins commencent à faire du papier cadeau avec des engrenages. Et donc ça se développe, c'est assez périodique, mais ça se développe. Ouais.
Est-ce que vous avez vu ce qu'on a fait en art plastique sur le steampunk?
Oui, c'est chouette. Ouais, bravo, toutes les créatures. J'ai hâte d'avoir les explications de chaque objet cet après-midi.
Qu'est-ce que ça vous a évoqué?
Tout l'art plastique?
Oui.
Bah, ce que j'aime bien, c'est que ce qui m'a vraiment plu, c'est que c'est une esthétique qui est tellement forte, l'esthétique steampunk, qu'on peut la manier comme on le désire. Et donc, ce qui m'a vraiment plu, c'est surtout les créatures qui ont été créées à partir de récup.
Merci en tout cas pour ces réponses. Est-ce que vous seriez d'accord pour nous lire un extrait d'un de vos livres?
Oui, si on a le temps de lire. On a combien de temps à peu près? Bon, alors, je vais vous lire un passage de l'ouvrage La France Steampunk. Les deux personnages principaux sont en captivité et doivent s'enfuir. Ils sont en Bretagne, ils doivent rejoindre le nord de la France, parce qu'il y a tout un passage qui se passe au nord de la France. Et donc, ils voient de leur fenêtre quelque chose de... Ils voient arriver une sorte de zeppelin, un dirigeable à partir de leur fenêtre. Nous fûmes réveillés le cinquième jour de notre captivité par de fortes vibrations. De notre fenêtre, le plus étrange des spectacles s'offrait à nous. Ce fut d'abord un murmure sourd, puis le bruit se fit de plus en plus profond et se transforma en un long et grave vibrato. Les rares meubles de la pièce tremblaient, de plus en plus fort. Nous nous précipitâmes à l'extérieur quand un dirigeable creva les lourds nuages bretons. Il allait se poser. Un groupe observait la manœuvre. Je reconnus Gégado, Yvon, Godel et Kefelec. Ils patientaient calmement. L'enveloppe du ballon principal de l'aéronef avait subi plus que de simples aléas de la navigation aérienne et avait été reprisée à de nombreuses occasions. À en juger les retouches aux coutures apparentes, les ballons secondaires étaient recouverts de plusieurs couches de camouflage dont les lambeaux grisâtres flottaient assez misérablement, incapables de donner au vaisseau l'allure martiale recherchée. Sa nacelle avait elle aussi connu les meilleurs jours, longtemps auparavant. Pas une vitre ne fut fissurée, ni une plaque de métal qui ne fût sur le point de se détacher, attaquée par la rouille, le vent ou les balles. L'appareil se posa néanmoins avec une douceur déconcertante. Et, le temps que l'un des hommes de Gégado fixa les amarres au sol, une porte s'ouvrit sur son flanc. Un individu des plus extraordinaires apparut. « Madame, comment le décrire sans m'égarer dans des détails inutiles ?»« Faites-moi signe, hein, quand vous voulez. » N'importe quel peintre le sait. Une personne peut être résumée en quelques traits qui disent tout ce qu'il y a à savoir sur l'individu. Le talent est justement de le capturer et de les exprimer. Là, je ne sais par où commencer tant nous étions devant l'extraordinaire, ni quel trait le saisir afin de le dépeindre. Ce ne sont pas les bagues qui ornaient ses doigts, ni le long manteau pourpre à haut col qui dessinait sa silhouette d'un trait acéré, ni ce visage long et fermé. C'est bien le tout qui m'impressionna. L'homme dans son entier attirait le regard. Jamais je n'avais vu quelqu'un dont l'apparence jurait tellement avec ce qui l'entourait tout en donnant l'impression d'être exactement à sa place.
Un grand merci à Arthur Morgan d'avoir été à nos côtés pour cette belle découverte. Et le steampunk, on en parle aussi beaucoup à Saint-Odile.
C'est le cas du club Jeux de Société qui a travaillé sur ce style littéraire. Et vous êtes ici avec nous, bienvenue.
Bonjour.
Racontez-nous votre projet steampunk.
Alors, c'est très simple. On a commencé au début d'année, donc à peu près en octobre, fin octobre, début novembre. On a eu un projet donc, qui consistait et qui tournait autour du thème principal qui était le steampunk. On s'est aidé donc, d'une œuvre de Stéphane Tamayon qui était l'Ultramonde. De là, avec une équipe de 16 élèves, donc 8 en première heure, 2 en deuxième heure, à raison de 3 heures par semaine, le lundi et le mardi, on a mis au point un jeu de plateau qui permet de faire jouer jusqu'à 6 joueurs, donc de 2 à 6 joueurs. Le concept est simple. Il y a deux équipes. Il y a deux équipes, donc les dérailleurs et les humains. Le but de chacune de ces équipes est d'attraper les trois pierres de Farc. Donc dans l'œuvre de Stéphane Tamayon, ces trois pierres de Farc consistent à réguler l'énergie du monde. Et dans ce jeu, ça va être le même principe. Les dérailleurs vont devoir s'emparer des trois pierres. Les humains vont devoir empêcher les dérailleurs de les emparer et donc se les accaparer et les ramener chacun dans leur monde. Des cartes ont été créées par les élèves. Des dés ont été mis en place, des pions, ainsi que tout le plateau. Tout a été créé et mis en place par les élèves. Ça nous a pris bien, ça a été fini il n'y a pas très longtemps, ça a été fini il y a une semaine. Donc on a mis vraiment bien 6 mois à le finaliser. Que dire d'autre ?
Avez-vous comme projet d'en faire plus tard ?
Alors, en faire quelque chose plus tard, peut-être. Ça, après, on verra par la suite si effectivement le jeu peut bien marcher. En tout cas, les élèves, eux, en sont heureux. Les personnes qui l'ont testé le sont également. C'est à voir par la suite, effectivement. Si ça pouvait aller plus loin, oui. C'est sûr qu'on aimerait que ça aille plus loin.
Et toi, Ambre, est-ce que ça te plaît, le club jeu ?
Bien sûr.
Ambre.
Mais je réponds, oui.
Bah ouais, c'était sympa, surtout qu'on l'a fait le midi, le lundi et le mardi. Alors, pour faire quelque chose le midi, au lieu d'attendre pour passer à la cantine, c'était quelque chose pour profiter. Et c'était rigolo de le faire parce qu'on rigolait, enfin on s'amusait à 8 au CDI.
Merci de nous avoir écoutés. Nous repassons à l'antenne à Antoine.
Merci Maëlle et Clara pour ce dossier complet sur le steampunk, genre littéraire qui sort de l'ordinaire. Et moi, ça m'a donné envie. Je cours acheter le guide du steampunk.
Oui, enfin, attends, la fin de l'émission quand même, c'est pas fini. Tout de suite, on découvre l'auteur Vincent Villomino avec Elena et Lilou. Au programme, un peu de fantaisie pour les adolescents.
Vendredi 13 novembre 2015. Il était à la terrasse d'un café quand les terroristes ont tiré. Son frère est mort, lui s'en sort indemne. Il quitte l'hôpital au matin, monte dans le métro. Son regard croise celui d'un passager. Il reconnaît le visage de l'un des tueurs et décide de le suivre. Ceci est un extrait du livre « Samedi 14 novembre » de Vincent Villomino.
Mais au fait, qui est Vincent Villomino ?
C'est un auteur de romans pour adolescents et adultes. Mais avant de parler de ses projets actuels, on va retracer son histoire. Après Sciences Po et des études de journalisme, il participe à la création d'une université d'enseignement du journalisme français au Caire. Puis, de retour à Paris, il enseigne le journalisme et collabore à plusieurs publications. Par exemple, le journal d'insertion La Rue. Ensuite, il se tourne vers l'écriture romanesque et écrit son premier livre, paru en 2002. Anatole n'aime pas l'école. Il devient alors auteur à plein temps et emménage à Évian, sur le bord du lac Léman dans les Alpes françaises. Vincent Villomino publie près d'une quinzaine d'ouvrages de lecture de littérature jeunesse. Dans sa plume, on retrouve alors de l'humour, mais également de la pédagogie et de la sensibilité. Chez Nathan, il est auteur de la trilogie Instinct, de la série La Brigade de l'Ombre, son premier roman noir. Il a d'ailleurs obtenu le prix Polar 2016 du meilleur roman jeunesse au Festival de Cognac pour le tome 1, qui s'appelle La prochaine fois, ça sera toi. Et son premier livre, c'est le tome 2, qui est sorti le mois dernier, Ne te fie à personne. Le type tressaillit en sentant le métal froid des menottes Capitaine Jobert, brigadier des Goules. Elle vit des épaules se raidir. Il commence à trembler. Tu comprends de quoi je parle ? Il se mit à pleurer comme un môme. C'est la première fois ? Demanda Diane. J'ai blessé quelqu'un ? Elle éprouva soudain un profond sentiment de pitié et de colère mêlée. Blessé ?
Si tu savais, tu n'imagines même pas.
Merci de nous avoir écoutés pour le portrait de Vincent Villeminot.
Merci Elena et Lilou. Alors, pas de site internet, mais on vous conseille plutôt la page Facebook de Vincent Villeminot pour suivre toutes ses actualités.
On se quitte quelques instants en musique avec Human de Ragged Bone Man. Restez avec nous, vous êtes sur RPL.
Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, and what do you see? See it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Et sur RPL, notre émission spéciale en direct du Salon du Livre Jeunesse de Sainte-Odile. Encore plein de surprises pour vous, chers auditeurs, et de tout de suite, une rencontre un peu particulière avec une maison d'édition tenue par d'anciens élèves d'ici. Kéo, à toi la parole.
Bonjour à tous, je suis avec Louis Lemayeux. Comment s'appelle votre maison d'édition ?
Bonjour. Alors, la maison d'édition s'appelle Fleur de Ville.
Où se situe-t-elle ?
Alors, pour répondre plus précisément à la question, je vais d'abord vous dire que moi, je travaille avec mon frère, Henri, donc Henri Lemayeux, et on travaille chacun de chez nous. Donc, moi, j'habite à Paris, à Pantin, plus exactement, et Henri habite à Lyon. Et le fonctionnement fait que, comme on est chacun chez nous et que les livres sont gérés par un distributeur qui s'occupe de la logistique, on a chacun notre bureau à domicile et donc on a un réseau d'auteurs qui est surtout à Lyon et après tout un réseau de diffusion et de distribution logistique qui est surtout à Paris. Et on fait beaucoup l'aller-retour entre les deux.
Comment vous est venue l'idée de créer une maison d'édition et pourquoi l'avoir créée ?
Alors pour être précis, on n'a pas créé la maison parce qu'il s'agit d'une reprise. Fleur de Ville existait déjà depuis quelques années. Elle a été créée par Marie-Pierre Audoux et il y a déjà quelques années de ça, qui travaillait avec Marine Thévenet. Et moi, j'ai été en colocation en fait avec Marine Thévenet pendant à peu près 2 ans. Et en discutant des différentes choses qui nous plaisaient, de ce qu'on aimait bien dans la vie, des différentes carrières auxquelles on pensait, est venue sur le tapis cette idée de la maison d'édition. Et Marine m'a dit sur le ton de la blague, tu pourrais reprendre notre maison d'édition jeunesse. Et moi, ça m'a paru quelque chose qui collait bien avec mes envies et à la fois professionnelles et les étapes de pensée par lesquelles j'étais. Et ça me permettait de travailler avec Henri. Donc Henri, mon frère, qui est illustrateur. Et on fait une équipe qui se complète assez bien tous les deux, parce que moi, j'apporte le côté plus technique. Moi, j'ai travaillé dans l'imprimerie, j'ai travaillé dans le papier, donc je connais un peu plus cette question du planning et de l'organisation. Et Henri, il amène le côté plutôt artistique, la vision de l'auteur.
D'accord. Dans quel style de livre êtes-vous spécialisé ?
Alors, on fait des livres pour la jeunesse. Donc, historiquement, la maison s'est créée avec des livres autour du sport, donc pour les débutants dans plein de disciplines, qui sont à partir de 6 ans à peu près. Et aujourd'hui, on fait aussi des albums illustrés, donc des histoires qui sont illustrées par différents auteurs. Et ça va de 1 à 2 ans pour les premiers livres jusqu'à, il n'y a pas de limite d'interdiction quand on est trop grand, mais on va dire jusqu'à un peu moins de 10 ans. Une fois que les enfants commencent vraiment à lire tout seuls, à lire des romans, là, ça devient quelque chose qu'on ne fait plus.
D'accord. Avez-vous des projets dans l'avenir ?
Alors nous, on a un des projets, c'est de refaire vraiment, de donner un coup de jeune à toute la collection sur le sport, qui aujourd'hui compte une belle collection d'une quinzaine de titres. On a envie de refaire la maquette et de relancer tout ça, relancer les partenariats avec les fédérations pour à la fois apporter un coup de neuf au livre en soi, et puis pour renouer vraiment avec les différents intervenants de cet univers-là des sports.
D'accord. Quels auteurs ici présents au Salon du Livre sont dans votre maison d'édition ?
Alors aujourd'hui, on a 3 auteurs qui sont présents. Donc on a notamment Henri dont je vous ai déjà parlé, qui est éditeur, qui a également illustré un livre qui va sortir prochainement, qui s'appelle Une belette très chouette. Il est là pour présenter le livre en avant-première. Donc il est là en tant qu'éditeur et en tant qu'auteur. Et ensuite, on a nos deux auteurs spéciales, qui sont Marina Sotti et Émilie Devent, qui ont écrit Un réco pas comme les autres, qui est sorti en avril, et qui sont là toutes les deux pour dédicacer et présenter le livre. Donc j'invite tout le monde à passer les voir, elles ont plein de surprises, de cartes postales, vous pouvez prendre des photos avec le haricot, elles ont des plans de haricots à donner, elles adorent leur projet, elles vous en parleront beaucoup mieux que moi, et du coup je vous invite à les rencontrer.
D'accord, merci d'avoir répondu à mes questions et à bientôt.
Merci à vous, à bientôt.
Merci Kéo, et notre prochaine invitée est Marie Colo, au micro, toujours, de Milo et Julien.
Merci Antoine. Marie Colo, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, racontez-nous, depuis combien de temps écrivez-vous des livres ?
J'écris depuis très très longtemps, j'écris depuis que je suis toute petite, donc mes premiers livres qui ne sont pas publiés ont été écrits quand j'avais 6 ans, mais mon premier roman est sorti en 2012, donc ça fait 5 ans. Voilà.
D'où viennent vos idées pour écrire des livres ?
Je m'inspire surtout de l'environnement dans lequel je vis, donc je pense que les idées sont un peu partout. Donc je suis très très curieuse, j'observe beaucoup les gens, j'écoute les discussions, je prends des petites notes comme ça au quotidien. Et c'est de là que connaissent des personnages et puis des débuts d'histoire.
Pourquoi est-ce important pour vous aujourd'hui de participer au Salon du Livre ?
Parce que c'est un moment qui permet de rencontrer les lecteurs et donc d'échanger autour du livre, parce que finalement, quand on écrit, on est assez isolé et on ne sait pas très bien quelle réception va avoir le roman. Après, il y a des journalistes, etc., des blogueurs qui peuvent donner leur avis, mais voir vraiment des gens qui ont lu ce qu'on a écrit, ça promet de beaux moments d'échange. On retrouve aussi des lecteurs. Pour moi, ce n'est pas la première fois que je viens ici au salon, et donc d'année en année, je retrouve certains d'entre vous et on discute de ce qu'ils ont lu et puis on continue. Voilà.
Et pouvez-vous nous parler de votre collaboration avec les profs de Saint-Odile ?
Oui, donc on m'a proposé de travailler avec des classes de 5e qui voulaient chacune écrire une histoire collective. Et le thème, c'était essayer de réveiller le héros qui sommeille en soi. Et moi, je suis venue à deux moments dans ce projet-là, qui a été mené de janvier à mai. Et j'ai d'abord rencontré les classes pour jouer le rôle un peu de déclencheur, essayer qu'ils trouvent des idées, des personnages, des lieux, etc. Et puis, ils ont tout rassemblé, ils ont écrit en duo. Et puis, je suis revenue vers la fin du projet pour relire avec eux et commenter un petit peu ce qu'ils avaient fait afin de leur donner des nouvelles pistes pour améliorer le premier jet. Voilà.
Très bien. Écrire des livres, c'est votre première passion ?
Oui, c'est ma première passion. Donc c'est une passion et puis c'était un rêve, quoi. Donc vraiment, toute petite, je disais que je voulais devenir écrivain. Donc c'est super, ça veut dire que des fois, les rêves, ça se réalise.
C'est sûr. Et est-ce que vous avez encore des projets à venir ?
Oui, j'ai deux livres qui vont sortir là à la mi-juin, un roman pour ados et puis la suite d'un bouquin en première lecture qui est une petite série qui s'appelle Le jour des premières fois. Et puis j'ai encore d'autres publications à suivre, je suis encore en train d'écrire pour le moment, enfin voilà, assez fourni.
Merci Marie Collot, où peut-on vous retrouver ?
Je suis tout au bout. Non, c'est pas là. Ok. Où vous pouvez me retrouver, j'ai un site internet, www.maricolo.com. Et j'ai une page Facebook aussi, Marie Collot, auteur jeunesse, que vous pouvez liker pour être au courant de mon actualité. Voilà.
D'accord, merci. Nous irons faire un tour.
Ok,
merci,
super.
Au revoir.
Au revoir.
Tout de suite, écoutons le duo des Maximes sur le club d'écriture du collège. Et oui, vous ne le saviez peut-être pas, mais il y a un club d'écriture.
Oui, on se retrouve une deuxième fois sur l'antenne de RPL et pour en parler, nous sommes avec
Gaëlle, Baptiste et une professeure de français.
Madame de Vendée.
En quoi consiste ce club ?
Alors le club consiste à réunir les élèves une fois par semaine et toutes les semaines, ils élaborent le scénario d'un livre et l'écrivent tout simplement.
Pourquoi l'avez-vous rejoint ?
Parce que on aime écrire. C'est assez passionnant d'écrire un livre. C'est pour le plaisir qu'on a rejoint.
Et que faites-vous que faites-vous au club écriture ?
On écrit un livre qu'on va publier au salon du livre.
Quand a lieu le club écriture ?
Le vendredi midi.
Et pourquoi aimez-vous écrire ?
Par passion.
Et pouvez-vous nous lire un extrait ?
Ring ! Je viens d'être réveillée par la sonnerie du cours d'histoire. Je remonte illico mes lunettes et regarde autour de moi. J'aperçois Monsieur Louaille qui m'observe avec un grand sourire et me dit
« Alors, la belle au bois dormant, bien dormie ?»
Honteux, je ne réponds pas et grommelle en moi-même.
Très hilarant, comme toujours, Monsieur Louaille. Ha ha ha, quel grand humoriste. De 1, je suis un garçon, jusqu'à preuve du contraire. De 2, comment veut-il que je dorme bien sur une table ? Et de 3, je suis fidèle à ma réputation, je dors en cours d'histoire.
Monsieur Louaille, qui, décidément, n'en a pas fini avec moi, rajoute.
Je peux dire, Baptiste, dans quel groupe tu es ? Et sur quoi papa portait ton exposé ?
Devant mon air ahuri, toute la classe se met à rire.
Regarde le tableau !
Soupire-t-il avant de me dire un clin d'œil. En y jetant un coup d'œil, je m'aperçois que Salomé, Laurine, Maxence et moi devons faire un exposé sur le passé de Saint-Odile, notre collège.
La suite, quand vous pourrez le lire.
Merci à vous, et on passe tout de suite à de la littérature pour des enfants très très petits. Elena Lilou, c'est le troisième et dernier auteur que vous nous présentez après Coralie Sodo et Vincent Villeminot. Place à la découverte de Jean Leroy.
Pauvre doigt de pied, il y a une terrible injustice. Les orteils n'ont pas de nom. Heureusement, ce livre essaye de combler cette lacune impardonnable. Dès 3 ans. Je viens de vous lire un extrait de son livre, Les orteils n'ont pas de nom.
Mais en fait, c'est qui Jean Leroy ?
Il est né à Valenciennes en 1975. Il est auteur de livres pour la jeunesse. Il écrit pour des enfants à partir de 3 ans. C'est en observant son père qu'il rature ses premières rédactions. Jean Leroy a été professeur des écoles une dizaine d'années avant de devenir auteur.
Quel est le premier livre qu'il a publié ?
L'affaire du Bosquet verdoyant, à compte d'auteur en 1997.
J'ai entendu dire qu'il avait un associé. Qui est-il ?
Jean Leroy s'est associé à Mathieu Maudet, qui a illustré plusieurs de ses livres. Leur collaboration remonte à 2005. Leur premier album sort en 2008, dans la collection Loulou et compagnie. Il s'appelle Trop.
Mais il me semble qu'il y a une anecdote à raconter.
Oui, j'en ai une. Je vous la raconte tout de suite. C'est parti ! Jean Leroy a déclaré, je cite, « Je me souviens aussi d'un choc ressenti à la lecture des aventures d'Arsène Lupin, de Maurice Leblanc. »
Merci d'avoir écouté ce portrait.
Jean Leroy, que vous pouvez retrouver et suivre sur son blog jeanleroy.wordpress.com. Et notre émission touche presque à sa fin, mais avant, une rencontre spéciale dans l'équipe. Plusieurs de nos journalistes ont insisté pour l'interviewer. De qui s'agit-il, Milo et Julien ?
Il s'agit de notre ancienne prof principale et qui enseigne l'histoire. Elle se présente pour la deuxième fois au Salon du Livre. Bonjour Madame Kolanek.
Bonjour.
Pourquoi écrivez-vous depuis votre plus jeune âge ?
Donc j'écris depuis 11 ans, grâce à un professeur justement qui nous avait demandé, quand on étudiait le fantastique, d'écrire la suite de nouvelles. Et je pense que c'est ça qui a fait que je me suis lancée, on va dire.
Qu'avez-vous écrit ?
Qu'est-ce que j'ai écrit ? Alors j'ai commencé justement par le plus simple, on va dire, par des nouvelles justement noires, surtout basées sur la folie, parce que je ne savais pas écrire en longueur. Donc au moins écrire quelques pages, c'était dans mes cordes. Après j'ai aussi avec de la poésie, et puis un jour j'ai voulu écrire un conte pour enfants d'une dizaine de pages, et en fait ça a donné un roman pour adolescents et adultes de 350 pages. Donc je me suis laissée emporter par l'imaginaire, et voilà.
Avez-vous changé de style d'écriture depuis vos débuts ?
Oui, alors justement, c'est ce que je disais, j'étais plus dans les nouvelles noires à la base, et aujourd'hui je suis plus dans la fantaisie, donc on n'est plus dans le même univers cette fois.
Comptez-vous écrire d'autres livres ?
Oui. Alors là, justement, je suis dans la suite du premier tome de fantasy donc, que je présente aujourd'hui, le tome 2. Et donc là, je suis dans les 30 dernières pages d'écriture. Ça va bientôt se terminer. Et entre-temps, là, j'ai écrit un conte pour enfants aussi qui est en train de se terminer au niveau de l'illustration.
Et pourquoi faites-vous le métier de prof à côté ?
Alors parce que, à la base, pour être honnête, quand on veut être écrivain, il faut aussi pouvoir payer les factures. Donc c'est vrai que... il fallait trouver un métier à côté, et puis en fait ça s'est très bien combiné parce que j'adore me retrouver avec des jeunes. C'est vraiment la relation avec mes élèves aussi qui me donne le sourire quand je vais travailler, et donc voilà, c'est vraiment la relation avec mes élèves qui fait que j'aime ce métier, le fait d'enseigner forcément, de transmettre un message, mais pas que ça forcément.
Donc c'est pour ça que vous êtes revenue au Salon du Livre ?
Oui, et c'était l'occasion aussi de revoir donc mes anciens élèves, je leur fais un coucou à tous, de voir mes anciens collègues et les anciens parents d'élèves aussi. Enfin, c'est un bel accueil aujourd'hui qui m'est réservé, je suis contente d'être là.
Merci de nous avoir accordé votre temps précieux et d'avoir répondu à nos questions. Ça nous a fait super plaisir de vous revoir et bonne chance pour la suite. Au revoir.
Merci. Moi aussi, merci beaucoup.
Il est déjà l'heure de conclure cette émission. Et pour ça, nous sommes en compagnie de Monsieur Deprec. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de cette école. Vous encouragez le Salon du Livre Jeunesse depuis le début. Pour vous, est-ce que le Salon du Livre peut continuer encore longtemps ?
J'espère qu'il continuera encore longtemps, oui. C'est la quatrième édition. Et on va attendre de fêter l'année prochaine la cinquième et peut-être la dixième dans quelques années. Oui, j'espère que ça va durer. C'est un projet important pour Saint-Odile, en tout cas.
Si vous deviez dresser un petit bilan de cette quatrième édition du Salon du Livre, que diriez-vous ?
Je dirais que c'est une super réussite, puisque, ne serait-ce que par l'affluence, puisque l'année dernière, à la fin de la journée, nous avions 1200 visiteurs, 600 l'année d'avant, donc on avait déjà doublé. Je viens de faire un petit pointage il y a 5 minutes, et je crois que nous venons de passer la barre des 1000. Donc c'est un succès grandissant, de plus en plus d'auteurs, de plus en plus de visiteurs. Et donc forcément, de plus en plus d'envie de continuer.
Que peut-on vous souhaiter ?
Eh bien, que ça marche toujours autant l'année prochaine, que les projets pédagogiques qui sont menés par les enseignants avec les élèves et toujours autant de vitalité. Mais je n'ai aucun doute là-dessus, puisque au fur et à mesure des journées qui passent, on vient me voir en me disant « Tiens, j'ai encore une idée pour l'année prochaine. Je pense qu'on pourrait peut-être encore faire ça, mais il faudra qu'on en parle après. » Donc voilà, on peut me souhaiter que ça continue de durer et que de nouveaux projets soient portés et reconduits encore et encore dans les années à venir.
Merci Monsieur Debrecq et bonne continuation.
Merci bien.
Nous tenions à remercier Madame Lefebvre pour toute son énergie dépensée à la conception du Salon du Livre Jeunesse, car sans elle, le Salon du Livre n'existerait pas. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. C'est déjà la fin de notre émission spéciale. Bien sûr, si vous souhaitez l'écouter ou la réécouter, rendez-vous sur le www.rpl99fm.com.
Et nous vous souhaitons une bonne après-midi et on vous dit à bientôt.
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I choose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star. I see a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Oh, right away. At first sight, I felt the energy of sun rays. I saw the life inside. So shine bright into I to I, so our life. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Palms rise to the universe as we moonshine and Molly. Feel the warmth, we'll never die. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star. I see a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. At first sight, I felt the energy of sun rays. I saw the life inside. So shine bright tonight. You and I to I, so our life. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright tonight, you and I. We're beautiful like diamonds in the sky. I to I, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky.
Enfin, une radio sans pub. RPL, l'autre radio. Métropole lilloise et à travers toute la France, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre.